France Culture, 7h13, les jours de la publicité politique sont comptés sur Twitter. Le PDG du réseau social a décidé de les interdire, et ce dans un contexte de campagne présidentielle aux États-Unis. Une façon sans doute de marquer sa différence avec Facebook. Pour nous éclairer ce matin, François Bernard Huyghues, bonjour.
Bonjour.
Directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste en communication et cyberstratégie. Première nouvelle, il y avait donc des publicités politiques sur Twitter.
Oui, alors, en tant que Français, ça nous surprend parce que, par exemple, nous serions très choqués qu'on paie des millions de dollars pour faire des publicités politiques à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que le marketing politique, ça représente des milliards de dollars de dépenses aux États-Unis. Et le Monde avait dit, même il y a quelques années, que ça représentait des points de PIB pour faire élire les gens. Donc, pour nous Français, c'est un peu difficile à comprendre.
Alors, et pour les Américains, c'est quand même une décision importante, du coup.
Oui, alors, importante et symbolique. Il y a deux éléments. Premièrement, Monsieur Dorcel, le directeur de Twitter, il est peut-être sincère. Hein. Peut-être qu'il est choqué, comme nous Français, que celui qui paie, j'allais dire, puisse avoir accès à mon cerveau, un accès préférentiel au cerveau des internautes pour envoyer des messages politiques.
Oui, parce que je cite un des extraits de son argumentaire à Jack Dorsey, le patron de Twitter. Nous pensons que la portée d'un message politique doit se mériter, pas s'acheter. Alors c'est vrai que c'est un côté très très vertueux là-dedans.
Oui, c'est très vertueux. Alors après, il faut voir ce qu'il y a derrière cette vertu et le fait qu'à mon avis, elle ne lui coûte pas beaucoup. Alors déjà, il faut définir ce que c'est qu'une publicité politique. Vous pouvez payer pour atteindre beaucoup de gens et leur dire « votez machin ». Ça, c'est « endorse by the candidate », c'est un truc direct comme, vous êtes probablement sur Twitter, on reçoit une publicité pour une carte machin ou une formation. Bon. Et puis, il y a, plus subtil, il y a les « issue ads », c'est-à-dire, vous pouvez faire de la pub à propos d'une question de société au sens large. Vous pouvez payer pour que beaucoup de vos messages atteignent un public ciblé, intéressé, repéré sur quels critères on peut en discuter, pour leur parler de la condition des femmes, des tensions raciales ou de la possession des armes. Bon, c'est il y a déjà des contrôles sur Twitter. Il faut qu'on puisse savoir qui finance quoi, si c'est une véritable identité ou c'est un troll, etc. Donc ça, il supprime, ça n'est pas une part énorme du budget de Twitter. Il y a surtout le coût de « moi, je ne suis pas Zuckerberg ».
Voilà, alors c'est ça, sans doute, qui est le plus intéressant. C'est une façon de se positionner par rapport à son concurrent, alors qui est beaucoup plus important.
Oui, on est
Facebook, ça n'a rien à voir avec Twitter.
Sociologiquement, on ne parle pas du même public non plus. Oui.
Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est-à-dire, pourquoi ça lui permet de se montrer comme quelqu'un de beaucoup plus chevalier blanc, disons, qu'à Mark Zuckerberg, à Jack Dorsey.
Alors, parce que Mark Zuckerberg a beaucoup d'ennuis. Ça, c'est très clair. Précisons d'abord que Mark Zuckerberg n'est certainement pas trumpiste. Il a subventionné la campagne de Clinton. Il est, si j'ose dire, politiquement correct, etc. Bon, mais Zuckerberg a énormément d'ennuis parce qu'il se fait prendre dans plusieurs histoires. Pendant la campagne de 2016, en laissant passer et surtout monter partager des fake news ou des rumeurs délirantes du genre le pape soutient Trump, où il y a des trafics pédophiles démocrates dans les pizzerias, enfin des trucs qu'un enfant de 4 ans ne pourrait pas croire. Il s'est fait prendre dans l'affaire Cambridge Analytics, qui est quelque chose d'assez subtil, c'est-à-dire il a laissé une société de ciblage, je vais expliquer ce que j'entends par une société de ciblage, prendre à travers une appli des données personnelles des gens. Alors, une société de ciblage, c'est une société qui fait de la super étude marketing, ça sert pas qu'en politique, ça peut servir à vendre des lessives, pour savoir qui vous êtes, quelle est votre catégorie sociale et quels sont vos intérêts, vos passions, vos répulsions, quel est votre type psychologique, pour vous envoyer le message super super précis qui fait que vous allez voler machin, vous allez décider de rester à la maison.
Et ça a contribué à faire élire Donald Trump.
Alors, oui et non. Il y a eu beaucoup d'études pour montrer que les démocrates, et Hillary Clinton en particulier, sont persuadés que s'il n'y avait pas eu les méchantes manœuvres de Trump sur les réseaux sociaux et derrière les méchants russes, le peuple aurait voté démocrate. Bon, je crois que c'est faux. Ça a eu un effet de confirmation.
François Bernard Huyghe, cette façon de se positionner qu'a Twitter par rapport à Facebook, parce qu'il faut dire que Facebook, pour l'instant, continue d'accepter les publicités politiques.
Il gagne énormément d'argent en général, oui.
Est-ce que c'est une façon aussi de faire émerger ou réémerger un débat sur les limites de la liberté d'expression aux États-Unis ?
Alors, c'est parti sur ce ton-là, en effet, aux États-Unis, parce que Zuckerberg a une philosophie très particulière. Il dit, sur Facebook, on doit pouvoir exprimer toute opinion, même une opinion qui me choque. Il dit en particulier même une opinion antisémite, et croyez-moi, Zuckerberg n'est pas antisémite, ou même une opinion fausse. Simplement, c'est à nous, Facebook, de signaler qu'elle est suspecte ou de faire en sorte qu'elle... C'est toujours la guerre des cerveaux, la guerre des secondes de cerveau concernées, ou de faire en sorte qu'elle apparaisse très très bas dans nos classements. Mais c'est aussi... Facebook, c'est basé sur le principe d'une communauté où on vous recommande des contenus, et derrière ça, il y a des algorithmes qui vous disent si vous allez vers des contenus proposés par vos copains, des gens qui vous ressemblent, ou sponsorisés par des journaux ou des annonceurs.
Qu'est-ce que les informations qui sont diffusées soient des informations fausses ?
Ça arrive. Alors, moi, j'ai tendance à relativiser ce pouvoir des fake news pour une bonne raison, c'est que la durée de vie d'une fake news est très, très faible. Elle est signalée en... parce qu'il y a des tas de processus de fact-checking, y compris chez vous d'ailleurs, je crois. Il y a des tas d'ONG qui font ça et des tas d'internautes comme moi qui adorent rien de plus que de trouver une fake news. C'est bon pour l'ego, quoi. On a ridiculisé l'autre. Donc, les fake news, ça, c'est un long dossier. Elles ont eu un effet de confirmation pour les gens très militants dans l'élection, mais dire que l'élection de Trump s'explique par les fake news et que derrière les fake news, il y aurait les services russes, c'est une thèse un peu complotiste et paranoïaque que soutient malheureusement Hillary Clinton, qui n'a toujours pas compris sa défaite.
Un dernier mot, François-Bernard Huyghe, sur Twitter donc, et cette décision de son patron Jack Dorsey d'interdire les publicités politiques. Est-ce qu'on peut aussi y voir une façon qu'aurait ce réseau social de prendre davantage de responsabilités en tant qu'éditeur, hein, même si on sait que les réseaux sociaux n'aiment pas trop avoir ce rôle-là? Et est-ce que c'est aussi peut-être une façon de se prémunir de tentatives de régulation politique?
Alors, il peut y avoir de ça. Il vaut mieux précéder qu'être rattrapé par le gendarme. Il y a une part de sincérité probablement chez cet homme, mais en réalité, tout ça nous cache la réalité, qui est que qui décide ce qui atteint notre cerveau? Un algorithme. Et quand en France on essaie de faire une loi contre les fake news, personnellement, je pense que c'est une mauvaise loi, mais peu importe. Qu'est-ce qu'on fait? On dit le juge des référés doit appeler les plateformes et leur dire « s'il vous plaît, retirez vite cette information suspecte ». Donc le vrai pouvoir, il est dans l'algorithme. Il y a des millions de comptes supprimés, il y a beaucoup de choses enfouies dans le fond d'Internet. Code is law, le code c'est la loi.
Donc on est plus dans une décision finalement un peu cosmétique que véritablement en profondeur. Merci beaucoup en tout cas, François-Bernard Huyghe. Je renvoie à votre dernier ouvrage, Fake News, la grande...
Le dernier, c'est L'art de la guerre idéologique aux éditions du Cerf depuis 3 jours, voilà.
Ah bah voilà, j'étais pas tout à fait à la page. Merci, il est 7h21 sur France Culture.